Apocalypse, chapitre 7, versets 13 et 14. Puis, un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Et je lui dis, « Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. » Frères et sœurs, aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est continuer notre méditation et poursuivre là où nous sommes arrêtés précédemment. Vous vous souviendrez, si nous faisons un léger récapitulatif, que nous avons conclu, à travers notre étude de la parole de Dieu, que nous sommes appelés, comme nous le voyons dans la parabole des noces du Fils, nous sommes appelés à nous revêtir des habits de noces, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 19, du fin lin, qui sont les justices des saints, et qui est, comme nous l'avons également lu, la justice de Christ. Et là, nous faisons un bref survol de ces réalités que nous avons lues en long et en large à travers à la fois la parole et l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus. Nous sommes appelés à nous revêtir de cet habit de noces et nous avons vu dans la parabole, nous voyons dans la parabole qu'il y a une personne qui s'est introduite dans ces noces du Fils qui n'est autre que Jésus, l'agneau, qui s'est introduit dans ces noces de l'agneau pour ainsi dire. Mais dans cette parabole des noces du Fils, nous voyons que cet homme ne s'est pas revêtu de l'habit de noces qui a été pourvu pour tous ceux qui doivent être présents au mariage. Cette personne n'est venue, et nous avons vu, comme c'est écrit dans le livre Parabole de Jésus, que cet examen des invités par le roi n'est autre que une représentation symbolique de la réalité concrète dans laquelle nous sommes chacun de nous impliqués en cette heure du jugement investigatif, de l'heure du jugement de Dieu qui est venu, comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 14, verset 7. Et donc nous nous souvenons que, comme c'est écrit dans l'expansion, dans le développement de l'esprit de prophétie sur cette parabole-là, nous sommes appelés à nous revêtir de cet habit de noces qui est la justice de Christ. Mais nous avons aussi plongé nos regards dans la réalité que c'est une chose d'accepter et d'épouser cette vérité, mais c'est une autre chose d'adopter et d'épouser la réalité pratique de ce que cela veut dire, de nous revêtir de l'habit de noces sans lequel nous ne serons pas admis dans le mariage de l'agneau, le banquet des noces de l'agneau. Le banquet des noces dans l'agneau, dans lequel la célébration est faite de son union avec lui, Jésus, l'époux, et l'Église, l'épouse. Et donc cette activité est résumée en pratique dans la citation suivante que nous avions lue, vous vous souviendrez, dans Parabole de Jésus, à la page 271 et au paragraphe 3. En parlant de cette robe de Jésus, cette justice de Christ, nous lisons « Tissée sur les métiers du ciel, Cette robe n'a pas un seul fil de la sagesse humaine. Cette robe qui nous appelle, qui nous invite à acheter de lui, comme c'est écrit dans son appel à Laodicée, Apocalypse chapitre 3, il est là en train de dire, je te conseille d'acheter de moi de l'or pur, de la foi et l'amour pur, un collier pour tes yeux pour que tu vois parce que tu es aveugle. Quoi d'autre? D'acheter de moi des vêtements blancs pour que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et cette robe qui nous appelle à acheter de lui, ces vêtements blancs qui sont les siens, la justice de Christ, comme nous l'avons vu, l'habit de noces qui nous invite et qui nous demande de porter, elle n'a pas un seul fil de la sagesse humaine. Donc cette robe que je suis appelé à porter et dont je suis appelé à me revêtir n'a pas un seul fil de ma sagesse. Ma sagesse, elle n'a aucune place dans cette robe. Cette robe, c'est la sienne. Il m'appelle à la porter sans aucun fil de ma sagesse. Nous avons lu, vous vous souviendrez, que la religion du rapiessage n'a pas de place dans l'appel de Dieu pour nous en ces derniers jours. Et la religion du rapiessage ne résultera que dans une religion des caractères rapiécés. Un peu, beaucoup de moi et un peu de Christ. Et à la fin, nous réalisons qu'il ne reste plus que du moi et il n'y a plus du tout de Christ. C'est la religion de rapiessage. Mais ici, cette robe qui a été tissée sur les métiers du ciel n'a pas un seul fil de la sagesse humaine. Cette robe, la sienne. Et comment est-ce que l'esprit de prophétie qualifie cela ? Et explique de manière vivante, réelle, cela. Je continue. Dans son humanité, Christ a formé un caractère parfait. Et c'est ce caractère qu'il offre de nous communiquer. Il dit, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il offre de nous communiquer son caractère, le caractère parfait qu'il a lui-même formé quand il était sur la terre, dans son humanité, qui est aussi la nôtre, dans son humanité pécheresse. Il a formé un caractère parfait et il m'invite, il m'appelle à prendre ce caractère, à me communiquer son caractère. Ensuite, elle cite Ésaïe 64, « Toutes nos justices sont comme un vêtement souillé. » Vous vous souviendrez, dans Apocalypse 19, on nous parle du fin lin qui sont les justices des saints. Mais attention, parce que là, il s'agit des justices des saints qui se sont appropriées la justice de Christ. Parce que nous, nos justices, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont comme un vêtement souillé. Vous pouvez être certain que nos justices ne sont pas un fin lin. Mais, à travers notre coopération, notre engagement personnel et pratique dans ce que Dieu nous appelle à faire, ce qui se passe, c'est que le fin lin, qui est la justice de Jésus, elle devient, comme c'est écrit, la justice des saints. C'est comme ça que la Bible se définit elle-même. Je continue. Tout ce que nous pouvons faire de nous-mêmes est pollué par le péché, mais le Fils de Dieu a paru pour ôter les péchés et il n'y a point de péché en lui. Ce sont ici des termes très importants parce que lorsque vous êtes rempli de péchés, criblé de péchés comme du camembert, eh bien c'est à ce moment-là que vous pouvez vous saisir par la foi et que vous ressentez votre besoin jusqu'à vous saisir par la foi de ce qui est écrit ici, qu'il n'y a point en lui de péché et il a paru pour ôter les péchés dont nous sommes remplis à ras-bord. Il a paru pour ôter ces péchés-là? Comment? Par un bateau magique? Non, il a formé un caractère parfait et il offre de nous communiquer ce caractère-là. Il n'y a point de péché en lui. En lui, pour qu'il n'y ait point de péché en lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vécu une vie, une telle vie qu'il a vécu Jésus, qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, tout en ne commettant aucun péché dans la chair qui est la nôtre. Et si vous vous dites, mais frère Victor, tu racontes ces choses-là, mais est-ce que tu les vis? Je peux vous assurer que si je ne les vivais pas, je ne serais même pas venu ici à prêcher. Vous croyez que je prends plaisir à ces choses-là? La chair, elle dit, non, arrête-toi tout ça, c'est fini, ferme tes bagages et allez, échappe-toi. Non. Lorsque nous suivons l'esprit, ceux qui sont guidés par l'esprit, qu'est-ce que c'est écrit dans Romains? Ils sont enfants de Dieu. Et donc Satan, il vous dit, mais allez, abandonne, lâche l'affaire. Comment tu as failli là? Et tu blasphèmes le Seigneur? Comme John Bunyan? Arrête-toi, abandonne. Non, non, si nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que nous sommes? Enfants de Dieu. Est-ce que nous allons nous fondre, nous morfondre dans le désespoir parce que Satan nous assaille de ce désespoir et nous tente à désespérer et à agir encore plus de manière indifférente? Non, il est écrit dans 1 Jean, chapitre 3, je crois. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes, pas nous serons, pas peut-être, nous sommes enfants de Dieu. Et il ne paraît pas encore ce que nous serons, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Pas parce que c'est de la magie, parce que verset 3 est dit, et celui qui a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. Donc si j'ai cette espérance, je suis enfant de Dieu, tel que c'est écrit, par sa promesse, son alliance qu'il a formée avec moi pécheur, et je me purifie moi-même. Et c'est comme cela que j'ai la foi, que j'ai l'assurance que je serai comme lui, semblable à lui, lorsqu'il apparaît. Et donc, cette activité en pratique, elle est résumée, c'est ça, c'est à cela que je voulais venir, elle est résumée dans cette parole, toujours la même citation, où il est écrit. Par son obéissance parfaite, Jésus a rendu possible pour tous les hommes l'observation des commandements de Dieu. Donc ça, c'est la vérité rhétorique, théorique, qui est vraie. Mais le sens pratique et ajusté pour nous, c'est ici, maintenant je lis. Quand nous nous soumettons à Christ, notre cœur est uni au sien. Notre volonté se confond avec la sienne. Notre esprit ne fait chacun avec son esprit, nos pensées lui sont amenées captives. Nous vivons sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu du vêtement de sa justice. Qu'est-ce que cela signifie être revêtu du vêtement de sa justice? Notre thème, depuis maintenant 3 sabbats, c'est nous soumettre à Christ. Lorsque nous arrivons à ce point-là où cet aspect est défini, c'est là que nous réalisons que se revêtir de Christ, ce n'est pas aussi mélodieux et poétique que nous le pensions auparavant. Se revêtir de Christ, qu'est-ce que c'est? Voilà ce que signifie être revêtu du vêtement de sa justice quand nous nous soumettons à Christ. Se soumettre à Jésus. Comme il l'a dit, chargez-vous de mon joug. Chargez-vous de mon joug. Imaginez-vous un peu comme un cheval revêche. Et il faut que vous mettiez sur ce cheval la selle. S'il est revêche, s'il est sauvage, vous risquez d'avoir beaucoup de mal et c'est une activité très dangereuse. Mais Dieu agit envers nous comme envers des personnes intelligente et il dit « Ne sois pas comme l'âne à qui il faut mettre la bride, le mors entre les dents. Ne sois pas comme le cheval, comme cela, qui est rebelle et qu'il faut forcer, qu'il faut tenir en laisse, qu'il faut tenir sanglé, étouffé, pour qu'il fasse ce qu'on lui dit. Dieu nous dit, tu es une personne intelligente, je t'ai doté d'intelligence et de discernement, n'agis pas comme la bête. Et donc voilà ce que signifie être revêtu du vêtement de sa justice. On veut se souvenir de ça parce que après, Dieu voulant, nous allons continuer dans des choses qui sont d'ordre plus extérieur, mais elles n'ont absolument aucune valeur si ces choses-là n'ont pas été établies dans nos cœurs, à nous. Pas simplement à vous, pas simplement à moi, à nous. L'Église de Christ, c'est combien de personnes? C'est combien de personnes? Combien? 1? 2? C'est vrai qu'il a promis que lorsque 2 personnes sont réunies en son nom, il est là au milieu d'eux. Mais est-ce que l'Église de Christ, ce n'est que 2 personnes? Est-ce que l'Église de Christ, ce n'est qu'une personne? Est-ce que nous pouvons former plusieurs Églises de Christ, chacun qui vivons de nos côtés? Est-ce que c'est ça, l'Église de Jésus? Nous rendons grâce à Dieu que ce n'est pas comme ça qu'a été et que sera l'Église de Jésus-Christ. Mais il nous incombe de faire ce que nous sommes appelés à faire en tant que peuple de Dieu. Ou alors, nous ne sommes pas à lui. Nous ne sommes pas à Christ. Pour lui appartenir, il faut que je l'adopte, lui. Comme il a dit dans Jean chapitre 15. Demeurez en moi. Toi, tu demeures en moi. Toi, tu fais quelque chose pour demeurer en moi. Toi, tu fais des efforts pour demeurer en moi. Toi, tu penses à moi. Toi, tu te soumets à moi. Tu portes mon joug. Et je demeurerai en toi. Demeurez en moi et moi en vous. Est-ce qu'il peut demeurer en moi? Si moi je ne demeure pas en lui, est-ce que c'est possible ce genre de transaction? où c'est possible. Dans notre imagination, c'est possible, frères et sœurs, pas dans la réalité chrétienne. Non. Et si vous me dites, si vous pensez, mes frères, frère Victor, pourquoi tu es cruel comme ça? Non, l'esprit de prophétie nous dit qu'il nous faut nous examiner très attentivement et être sévère envers nous-mêmes. Pas être sévère envers les autres et être indulgent envers nous-mêmes, être sévère envers nous-mêmes et indulgent envers les autres. Patient, longanime, souffrir les autres, mais ne pas souffrir le péché en moi, souffrir dans le sens ancien, antique. Nous continuons, nous voulons, nous avons des choses que nous voulons contempler dans la parole de Dieu aujourd'hui, et il nous faut avancer. Donc, le sens pratique de nous revêtir de sa justice, c'est quand nous nous soumettons à Christ et que notre cœur est uni au sien. Pour que mon cœur soit uni au sien, il faut que je me soumette à lui. Parce que son cœur, ses voix ne sont pas mes voix et mes pensées ne sont pas ses pensées. Donc pour que mon cœur il soit uni à son cœur, pour que mes pensées elles soient unies à ses pensées, pour que mes voix deviennent ses voix, il faut que je soumette mes voix à ses voix. Il ne va pas soumettre ses voix à mes voix. Souvent, nous avons l'impression que Dieu va soumettre ses voix à mes voix et il va se mettre en harmonie avec moi et tout ira bien. Non, non, non. Lorsque mes voix sont permises, c'est que Dieu m'a permis de marcher dans la tromperie de mes propres convoitises. Il ne va pas soumettre ses voix à mes voix, il va juste me laisser pratiquer mes voix. Mais ses voix restent ses voix. Elles restent hautes et élevées au-dessus de mes voix, telles que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Donc c'est cela. Pour que moi, mon cœur soit uni au sien, moi qui suis un cœur dont les justices ne sont que un vêtement souillé, qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce que je veux demander à Dieu de rabaisser son étendard et sa norme de caractère pour que aussi lui, son vêtement, il soit souillé comme le mien, comme ça nous sommes tous les deux en harmonie? Comment est-ce que ça fonctionne cela? Dans le monde dans le christianisme moderne, c'est partout comme ça. Nous avons l'impression que Dieu, il va faire descendre sa justice jusqu'à la notre justice pour que nous n'ayons plus aucun effort à faire. Mais c'est une fantaisie cela, frères et sœurs, enfin. Il faut que nous nous réveillons. L'apôtre Paul, il dit, il est enfin temps que nous nous réveillons parce que les ténèbres, elles nous entourent, mais notre salut approche, il est plus proche notre salut que lorsque nous avons premièrement cru. Il disait cela il y a à peu près 2000 ans. Combien notre salut est proche aujourd'hui? Et combien est grand notre besoin d'abaisser notre cou pour porter le joug de Christ. Donc l'aspect pratique de cette réalité symbolique de la Bible, de se revêtir de la justice de Christ, de se revêtir de Christ, elle est toujours l'élément le plus difficile pour l'homme à accepter en son fort intérieur. Notez bien ces paroles. En son fort intérieur, c'est là que cette activité pratique est la plus difficile pour l'homme à accepter. Je ne parle pas de l'intelligence. C'est très facile pour une personne d'accepter ces choses en théorie. Oh, combien de millions d'adventistes acceptent ce fait en théorie? Combien est-ce facile pour nous d'accepter cette vérité en théorie? Très facile. Ça ne demande pas vraiment de sacrifice, d'accepter que c'est cela qui est juste, c'est cela qui est bien, c'est cela que nous devons faire. Et nous pouvons même nous maintenir dans la pensée que nous le faisons sans pour autant faire le sacrifice qui nécessite une telle activité pratique dans notre vie. Et nous nous trompons nous-mêmes. Mais d'accepter cela en notre fort intérieur, c'est cela qui est toujours le plus difficile. Et c'est cela que nous voulons tenter de faire et nous efforcer de faire en examinant la parole de Dieu encore une fois aujourd'hui. Pour que on n'essaye pas de le faire selon notre propre sagesse, parce que nous avons lu dans cette robe tissée sur les métiers du ciel, il n'y a pas un seul fil de la sagesse humaine. Donc ma sagesse humaine, elle ne fonctionne pas quand il s'agit de me revêtir de la justice de Christ. Ça va rater à tous les coups, vous pouvez être certain, je ne vais pas être revêtu de la justice de Christ. Il va avoir un beau travail de rapiessage, et il va me prendre un peu de temps pour réaliser que en fait je n'ai pas vraiment revêtu la justice de Christ, j'ai simplement fait du travail de rapiessage. Et oui, frères et sœurs, en tant qu'êtres humains déchus, nous sommes de très bons couturiers lorsqu'il s'agit de pratiquer la religion de Jésus-Christ. Mais Dieu nous dit que dans la réalité spirituelle, il n'a pas besoin que nous ayons besoin d'apprendre à faire de la couture. Ne faisons plus de la couture. Ne faisons plus de la couture. Il a tissé cette robe sur les métiers du ciel, c'est-à-dire qu'il a vécu une vie tellement en harmonie avec le ciel, Jésus, qu'il a tissé cette robe symbolique de son caractère parfait, pratique. Et cette robe, il offre de nous la communiquer. Communiquer, est-ce qu'il va la faire, il va la jeter du ciel, elle va tomber et nous allons pouvoir la prendre? Ça ne fonctionne pas comme cela. Il offre de nous la communiquer. Et comment est-ce qu'il fait pour nous communiquer quelque chose? Quand quelqu'un vous communique quelque chose, comment est-ce qu'il fait pour vous communiquer quelque chose? Est-ce qu'il vous parle? Vous allez me dire, peut-être il vous regarde. Oui. Mais pour vous communiquer quelque chose, il a besoin de dire quelque chose. Utilisez le langage. Et c'est pour cette raison que nous avons la parole de Dieu et l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus, il est en train d'essayer de nous communiquer sa justice, son caractère parfait. Nous sommes en train de nous plonger dans l'activité pratique et douloureuse de cette œuvre de coopération dans laquelle le Seigneur nous appelle. Frères et sœurs, vous allez me dire, pourquoi frère Victor, t'es tellement intense? C'est parce que j'ai envie de me débarrasser de ce caractère de rapiessage. L'esprit de prophétie nous dit qu'il faut être sévère envers nous-mêmes, mais pas sévère envers les autres ou blasphémateur envers Dieu. Et maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais que l'on se penche. Allons dans Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Et versets 1 à 14. Nous avons ici une histoire. Nous aimons bien les histoires. Simplement ici, il s'agit d'une histoire tellement profonde, tellement sérieuse, que elle appelle à notre réflexion vraiment intense ici. Une réflexion intense. Parce que Dieu ici, il est en train d'éveiller les souvenirs de son peuple. Écoutez avec moi ce que le Seigneur, l'Éternel, dit. Ézéchiel 16, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, dit Ézéchiel. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Dis Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père est un Amoréen, ta mère une Éthienne. Il est en train de rappeler à Israël, Jérusalem, d'où elle est originaire. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père est un Amoréen, ta mère une Éthienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril ne fut point coupé, tu ne fus point lavé dans l'eau pour être nettoyé, tu ne fus pas purifié avec du sel, ni enveloppé de l'ange. Aucun œil n'eut pitié de toi pour te faire aucune de ces choses, par compassion pour toi, mais tu fus jeté sur la surface d'un champ par mépris pour ta vie au jour de ta naissance. Or, je passais près de toi et je te vis gisant dans ton sang, près d'être foulé aux pieds, et je te dis, vis, lorsque tu étais dans ton sang. Je te dis, vis, lorsque tu étais dans ton sang. Je t'ai multiplié par myriades comme l'herbe des champs. Tu pris de l'accroissement, tu grandis et tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, tu devins nubile, mais tu étais nu et entièrement nu. Et je passais près de toi et te regardais, voici ton âge était l'âge où l'on aime, et j'étendis sur toi le pan de mon vêtement. Je couvris ta nudité, je te fis serment, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu m'appartins. Je te lavais dans l'eau, et en t'y plongeant, j'ôtais le sang de dessus toi, et je t'oignis d'huile. Je te revêtis de broderie, je te mis une chaussure de couleur d'hyacinthe, je te ceignis de fin lin, et te couvris de soie. Je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains et un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent. Ton vêtement était de fin lin, de soie, de broderie. La fleur de farine, le miel et l'huile faisaient ta nourriture. Tu devins extrêmement, extrêmement belle et tu parvins à une royale dignité. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à la magnificence dont je t'avais ornée, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié en ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ta renommée et tu as prodigué tes prostitutions à tout passant en te livrant à lui, etc., etc. Ici, Dieu passe en revue le souvenir de l'origine de Jérusalem. Du peuple de Dieu, il est en train de lui dire, voilà où je t'ai pris. Tu étais misérable, tu baignais dans ton sang, près d'être foulé aux pieds, et lorsque tu étais dans ton sang, je t'ai dit, vis. Il dit, je passais près de toi et je te regardais et ton âge était l'âge où on l'aime et j'étendis sur toi le pan de mon vêtement. Je couvris ta nudité Je te fis serment, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu m'appartins. Vous avez ici le Seigneur qui trace une illustration d'une réalité vraie. Simplement, c'est une illustration. Mais la réalité que c'est censé illustrer, c'est une réalité d'un état pitoyable et malheureux d'une vie pécheresse, noyée dans les plaisirs et les ambitions et les espérances du monde. C'est ça que cela veut vraiment dire. Il est en train de dire, voilà où je t'ai prise. Voilà où je t'ai pris. Ta vie était misérable. Tu baignais dans le sang de tes péchés, dans le fruit de tes transgressions de la loi de Dieu. Et je t'ai vu et tu m'as vu. Et moi, je t'ai couvert du pan de mon vêtement. J'ai couvert ta nudité. Il est en train de tracer une image que si nous pouvions avoir des illustrations modernes pour les mettre en image qui se meuvent et qui bougent, Ça nous permettrait d'avoir le genre d'idée qu'il est en train d'essayer de communiquer. C'est le passé de chacun de nous. Sans espérance, noyé dans nos propres péchés, prêt à être foulé aux pieds par le diable et ses cohortes, mais il vient et nous couvre de ses vêtements, de sa justice. Comme nous l'avions vu, il vient et il nous couvre de sa justice, il nous justifie par la foi. Parce que nous voyons à lui, nous levons nos yeux et nous nous disons comme l'homme paralysé, il disait à Jésus, avec l'espérance, est-ce que tu vas me faire marcher? Et à nous, il a dit, je te justifie par le sang de Jésus-Christ. Et donc, il veut nous remettre en mémoire ces choses. Il nous dit, quand tu étais dans le désespoir, tu as fait toutes ces choses. Et maintenant, je t'ai élevé en renommée. Je t'ai paré d'ornements. Je t'ai revêtu de broderies. J'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, un anneau à ton nez. Tu fus paré d'or et d'argent, ton vêtement de fin lin, etc. Ta renommée se répandit par les milliers de nations à cause de ta beauté. Car elle était parfaite, ta beauté, grâce à la magnificence dont je t'avais ornée, dit le Seigneur, l'Éternel. Tu étais parfaite grâce à la magnificence dont je t'avais ornée. Mais tu t'es confié en ta beauté, etc. Et tu t'es prostituée, tu as fait toutes ces horribles choses, ces abominations à l'Éternel. Mais, en ce qu'il fait la liste, il est quand même ici en train de ramener sa mémoire à la situation d'où il l'a sorti. Et d'où il nous sort, parce que c'est adressé à Jérusalem. Jérusalem. Parce que l'ange, dans Zacharie chapitre 3, il dit, n'est-ce pas Jérusalem, rappelez-vous, Zacharie chapitre 3, j'ai envie de citer proprement le texte, Zacharie chapitre 3, que l'Éternel te réprime, Satan, verset 2, que l'Éternel te réprime lui qui a choisi Jérusalem. Qu'est-ce que c'est Jérusalem ici? Jérusalem, il fait ici allusion à Josué, le souverain sacrificateur qui est revêtu de vêtements sales. Voilà Jérusalem. Et l'esprit de prophétie nous dit que cette parabole de Zacharie, chapitre 3, elle représente la situation du peuple de Dieu en ces derniers temps, où le peuple de Dieu est en train de vivre ce jugement investigatif et est en train de traverser une œuvre de purification. Et dans cette œuvre du jugement, l'activité, c'est que Dieu nous appelle à nous revêtir de la justice de Christ. Dans cette parabole prophétique de Zacharie, Dieu il dit à Josué, voici, je te revêts, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits magnifiques. Et ici, dans Ézéchiel 16, il est en train de nous rappeler d'où il nous a sortis. Et il continue après, à partir du verset 15, vers toutes les abominations que eux, le peuple d'Israël, ont commis. Et ces choses-là ont été écrites pour notre instruction, sur qui les fins du monde sont venues, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens. Et le lien direct avec cela qu'il a sorti Abraham du lieu où il était, du pays de sa naissance, ça se trouve dans Jérémie chapitre 3, versets 13 à 15. Où il dit, directement en lien, mais reconnais ton iniquité. Jérémie chapitre 3, verset 13, mais reconnais ton iniquité, que tu t'es révolté contre l'Éternel, ton Dieu. Tu avais toute cette renommée et tu t'es révolté contre l'Éternel, ton Dieu. Cette beauté qui était parfaite grâce à la magnificence dont je t'avais orné, tu l'as pervertie. Tu t'es révolté contre l'Éternel. Et donc il dit, mais reconnais ton iniquité, que tu t'es révolté contre l'Éternel ton Dieu, que tu as tourné ça et là tes pas vers les étrangers sous tout arbre vert et que tu n'as point écouté ma voix, dit l'Éternel. C'est important de soulever ces paroles du Seigneur parce que il est en train ici de parler à des enfants rebelles. Mais il ne les a pas abandonnés. Simplement, il dépeint leur transgression avec une couleur vive pour nous faire ressentir les conséquences lourdes de nos propres péchés. Et il nous dit, reconnais ton iniquité. C'est cela qui détermine la teneur de notre relation avec le Seigneur, si nous sommes prêts à reconnaître notre iniquité et nos transgressions et nos péchés, de petits, moyens et grands. Iniquité, c'est de vivre sans rapport, sans égard à la loi de Dieu, comme s'il n'y avait pas de loi. Et ici, il continue, il dit, convertissez-vous, enfants rebelles. Et dans l'anglais, c'est revenez, enfants rebelles. Revenez. Vous ne pouvez même pas vous convertir vous-même. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel. Car, la Bible d'Arby dit, car je vous ai épousé et je vous prendrai un d'une ville et deux d'une famille et je vous ramènerai dans Sion. Et je vous donnerai des bergers selon mon cœur qui vous paîtront avec science et intelligence. Vous avez ici des aspects très très importants qu'il est important pour nous de soulever ici. Il dit, je vous ai épousé, comme nous avons lu dans Ézéchiel chapitre 16. Il l'a trouvé et il a couvert sa nudité par le pan de son vêtement. Vous vous souviendrez de Boaz et de Ruth, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il l'a accepté? Il a accepté de l'épouser, il l'a couvert de son vêtement. C'est un symbole, cette activité où Dieu est en train de nous trouver baignant dans notre propre sang, de notre malheur, et nous revêtir de son vêtement, c'est un symbole de ce qu'il nous épouse. Il dit, revenez à moi, car je vous ai épousé. Et je vous prendrai un d'une ville et deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Et je vous donnerai des bergers selon mon cœur qui vous paîtront avec science et intelligence. Il s'agit ici d'une promesse qui est tout particulièrement, qui a tout particulièrement rapport avec notre expérience en ces derniers jours. Et vous pouvez le savoir. Vous pouvez le savoir en ce que il est ici en train de faire allusion à une activité de rassemblement du milieu de plusieurs villes ou de plusieurs pays et de plusieurs familles distinctes. Notez-le. Je vous prendrai un d'une ville et deux d'une famille et je vous ramènerai dans Sion. Sion, c'est l'Église. Sion, c'est l'Église. Comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 11, Sion, la Jérusalem qui est en haut, la Jérusalem céleste, il veut les rassembler dans Sion par la foi, pas simplement dans un endroit, parce qu'ici il est écrit qu'il les ramènera un d'une ville et deux d'une famille dans Sion. Il ne va pas tous les ramener physiquement dans un seul endroit, mais tous là où ils sont, il va les ramener dans Sion à travers une activité de foi et de relation spirituelle. Et donc, cette réalité qui est ici exprimée, où il appelle à ses enfants revêche et promet de guérir nos infidélités, comme il avait fait pour Israël, quand il l'avait trouvée et qu'elle baignait dans son sang, cette réalité, elle est maintenant connectée avec les paroles d'Apocalypse, chapitre 7, versets 1 à 4. Et ici, vous avez la réalité parallèle du scellement. Après cela, je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer en disant « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. 144 000. combien ? Un, d'une ville, et deux, d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Et sans plus tarder, j'aimerais lire une citation dans Maranatha, à la page 700 jusqu'à la page 701, directement en rapport avec ce passage d'Apocalypse. Je lis. Tout dans le monde est dans un état instable. Les nations sont irritées et l'on fait de grands préparatifs de guerre. Une nation conspire contre une nation, un royaume contre un royaume. Le grand jour de Dieu est proche. Toutefois, bien que les nations rassemblent leurs forces en vue de la guerre et de l'effusion de sang, l'ordre est encore donné aux anges de retenir les quatre vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Donc qu'est-ce que c'est ? Nous voyons dans Apocalypse 7, verset 1, que les quatre anges qui se tiennent aux quatre coins de la terre retiennent les quatre vents afin qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et ici, l'esprit de prophétie nous dit que cela est directement lié aux nations qui sont irritées et qui font de grands préparatifs de guerre. Les anges sont en train de retenir les quatre vents afin qu'ils ne soufflent pas sur la terre ou sur la mer ou sur aucun arbre, en gros sur toute la terre. Et ensuite, vous avez l'ange avec le sceau de Dieu vivant dans sa main qui crie aux quatre anges de retenir ces quatre vents encore plus longtemps jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu aient été marqués en leur front. Et ensuite, nous lisons que ceux qui sont marqués, ce sont les 144 000. Et ces vents qui nous sont épargnés, qui sont retenus, et ensuite relâchés, et ensuite retenus, ce sont les nations qui se font la guerre, le grand jour de Dieu qui approche. Comme c'est écrit, l'ordre est encore donné aux anges de retenir les quatre vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Je continue, les quatre vents sont encore retenus jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Alors les puissances de ce monde uniront leurs forces en vue de la dernière et grande bataille. Avec quelle application ne devrions-nous pas profiter de la courte période de grâce qui nous reste? Et rappelez-vous, la dernière fois, nous avons lu ce fameux passage d'Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16 et verset 15, où il dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. » Parce que vous avez ici une condition de choses, un état du monde qui est tel et qui ira tellement en s'empirant que il est d'une importance capitale que nous veillions et que nous gardions nos vêtements. Et quels vêtements ? Non pas nos vêtements, nos justices qui sont un vêtement souillé, mais la justice de Christ, l'habit de noces, les vêtements blancs qu'il nous conseille d'acheter de lui. Ce sont ces vêtements-là que nous sommes appelés à garder, comme nous l'avions vu la fois précédente. Et ici, ces vents qui sont prêts d'être relâchés, cette guerre finale qui est prête d'aller en s'accumulant jusqu'à Armageddon, comme nous l'avons vu elle est directement reliée à cette activité du scellement dans laquelle les anges sont engagés et dans laquelle nous devons nous-mêmes être engagés. Et d'ailleurs, nous allons qualifier cela. Comment est-ce qu'elle qualifie ici, brièvement? Elle dit avec quelle application ne devrions-nous pas profiter de la courte période de grâce qui nous reste. D'accord. Il nous faut faire preuve d'application. Application pour profiter, pour mettre à profit la courte période de grâce qui nous reste. Qui nous reste encore jusqu'à la fin du temps de grâce. Elle continue, ceux qui ont laissé leur esprit errer doivent changer. C'est comme cela que nous mettons à profit la courte période de grâce qui nous reste encore. Nous qui avons laissé notre esprit errer, nous devons changer cela. Ça fait partie de l'œuvre du scellement. Il nous faut avoir égard à nos pensées. Rappelez-vous, quand nous nous soumettons à Christ, quand notre cœur est uni au sien, nous vivons sa vie. Voilà ce que cela signifie d'être revêtu de sa justice. Il s'agit de ne plus laisser notre esprit errer. Où est-ce que notre esprit doit-il se concentrer? Les pensées doivent se concentrer sur Dieu. Maintenant, il est temps de s'efforcer de vaincre les tendances naturelles du cœur charnel. Il s'agit de faire preuve d'effort ici. Il s'agit de faire preuve de vrais efforts où nous coopérons avec Dieu. Comme c'est écrit dans Philippiens chapitre 2. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc il est temps, en ce moment-ci, en ce moment même où le temps de grâce est sur le point de prendre fin, où les anges sont sur le point de lâcher les quatre vents et de laisser les nations se faire la guerre et de laisser les esprits s'adonner à leur plaisir unique, en ce moment même, il est temps de nous efforcer de vaincre les tendances naturelles du cœur charnel. Et lisons directement en rapport avec tout cela, versets 13 et 14. Apocalypse 7, 13 et 14. Puis, un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Et donc, ici, nous savons qu'il parle des personnes dont il était question dans verset 4, les 144 000, parce que lorsqu'il voit la grande multitude au verset 9, nous savons de où ils viennent. Parce qu'il dit, verset 9, « Ensuite je regardais, et voici une grande multitude. » Que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Eux, on sait d'où ils viennent. Ils viennent de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Mais ceux qui sont vêtus de robes blanches, ils lui posent la question à Jean. Il lui dit, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Il est en train de susciter son intérêt, sa curiosité. Cela, j'ai pas vraiment parlé d'eux. Qui sont-ils? Et qu'est-ce qu'il dit Jean? Il dit, Seigneur, tu le sais. Dieu, il sait. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas la réponse. Il faut que Dieu me donne la réponse. Seigneur, tu le sais. Et ensuite, il continue et il nous dit que ce sont ceux qui ont lavé leur robe, qui sont sortis d'une grande tribulation, un grand temps d'épreuve et de purification. Comme c'est écrit dans Malachie chapitre 3, et qui ont lavé leur robe et ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Vous avez ici un autre aspect de cette activité où Dieu nous communique son caractère. C'est-à-dire que en nous communiquant son caractère, nous voyons que notre caractère n'est pas comme le sien et donc nous purifions notre caractère, nous lavons nos robes et les blanchissons dans le sang de l'agneau. Ce sont différentes illustrations pour représenter la même réalité pratique, la même activité personnelle dans laquelle Dieu veut que nous nous engagions, que nous coopérions avec lui. Dès maintenant, pas demain, pas après-demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, c'est aujourd'hui qu'il faut que je fasse cela, que nous fassions tous ensemble cela, chacun individuellement, pendant la courte période de grâce qui nous reste. Je continue, ou plutôt je lis la déclaration de l'Esprit de prophétie à ce sujet même dans Conseil à l'Église, à la page 271 au paragraphe 1 et 2. Directement lié à ces paroles-là, Jésus, dans son témoignage, nous dit: c'est maintenant que nous et nos enfants devons nous séparer du monde et nous garder sans tache. Sans tache. Non pas entachés du monde, mais garder pur du monde. C'est maintenant que nous devons nous séparer du monde et nous garder sans tache. C'est maintenant que nous devons laver nos robes de caractère et les blanchir dans le sang de l'agneau. L'esprit de prophétie vient de qualifier ce que je venais de dire directement dans l'inspiration. Qu'est-ce que c'est? C'est maintenant que nous devons laver nos robes de caractère et les blanchir dans le sang de l'agneau. Nous, aujourd'hui, pas la grande multitude des siècles passés, nous, aujourd'hui, qui vivons en ce temps du scellement, nous qui croyons au message des trois anges, c'est pour nous maintenant le temps de laver nos robes de caractère et les blanchir dans le sang de l'agneau. Et ensuite, elle développe cela. Écoutons. Que dit-elle? C'est maintenant que nous devons vaincre l'orgueil, la colère, l'indolence spirituelle. Qu'est-ce que nous devons vaincre? Comment est-ce que nous blanchissons nos robes de caractère dans le sang de l'agneau? Nous devons vaincre l'orgueil, la colère et l'indolence spirituelle. Nous devons les vaincre. Si nous avons laissé nos esprits errer, comme nous l'avons vu précédemment, il est maintenant temps pour nous de changer cela. Nous devons concentrer nos pensées sur Dieu. Nous devons nous efforcer, comme je l'avais lu avant, de vaincre les tendances naturelles du cœur charnel. L'orgueil, la colère, l'indolence spirituelle. Qu'est-ce que c'est l'indolence spirituelle? Indifférence, la nonchalance. Oh, c'est pas trop grave si je suis pas sanctifié chaque moment. L'indolence spirituelle. Nous devons vaincre cela. Vaincre l'indolence spirituelle. De croire que ce n'est pas très très grave si je ne marche pas tout à fait avec Jésus à chaque instant de ma vie. Non, l'esprit de prophétie nous dit que nous devrions nous examiner très attentivement et être sévères envers nous-mêmes et nos défauts de caractère. Laver nos robes de caractère. Être vrai, être vraiment conséquent et actif dans cette activité. Pas faire semblant. Que à chaque moment de ma vie, le Seigneur puisse me voir et approuver. que les anges n'aient pas honte de m'accompagner, que je ne fasse pas pleurer les anges par mon attitude de nonchalance et d'indifférence et d'indolence spirituelle ou d'orgueil, l'orgueil de la vie, comme c'est écrit dans 1 Jean, l'orgueil de la vie, les convoitises de l'œil et de la chair. Je continue. C'est maintenant que nous devons nous réveiller et faire résolument des efforts pour arriver à l'égalité du caractère. Aujourd'hui, elle cite, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu aujourd'hui est en train de nous révéler nos travers, les choses qui gâtent notre vie, tel que c'est écrit. Nous révèle les choses qui gâtent notre vie et nous appelle à nous repentir. Et donc, quand il nous parle comme cela, comme l'Esprit nous dit, c'est ça que tu dois faire cela. C'est cela. Non, pas ça. Non, tu dois faire cela. Comme c'est écrit, tu entendras une voix derrière toi te disant, voici le chemin, marche-y. Quand tu te tournes vers la droite ou quand tu te tournes vers la gauche, tu entendras cette voix. Non, c'est pas par là. C'est par là. Tu te souviens, je t'ai dit ceci, tu le sais. Ne fais pas ça. Et donc, aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Ne dites pas, oh, je ne sais pas si l'Esprit me parle, je ne suis pas vraiment sûr que c'est Dieu, peut-être pas, un jour, peut-être il me donnera la réponse. Aujourd'hui, je vais... C'est endurcir notre cœur que de répondre, de réagir comme cela à l'activité permanente de l'Esprit de Dieu. Et donc, il y a un mot qui est terrible ici. Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Donc, la possibilité est que nous endurcissions tellement notre cœur que nous n'entendions même plus la voix. C'est pour cela que c'est impératif pour nous d'être doux, comme nous l'avions vu. Être doux et humble, comme Jésus l'était. Il veut nous communiquer ce caractère. Il va nous communiquer. Donc, si nous lisons lui qui nous parle à travers la Bible et l'esprit de prophétie, il est en train d'essayer de nous la communiquer, cette douceur, et d'essayer de nous communiquer ce caractère parfait, cette robe qui est la sienne. Et lorsqu'il nous la montre, il faut que nous blanchissions nos robes de caractère, que nous n'endurcissions point nos cœurs. Vous voyez, tout cela est très, très, très intimement relié et appelle à nos efforts vigoureux et personnels. Comme nous l'avions vu, c'est maintenant que nous devons vaincre l'orgueil, la colère, l'indolence spirituelle. C'est maintenant que nous devons nous réveiller et faire résolument des efforts pour arriver à l'égalité du caractère. L'égalité, c'est-à-dire la symétrie, comme c'est écrit en anglais, c'est-à-dire il n'y a pas un peu de Christ et beaucoup de moi, ou il n'y a pas une partie égale de Christ et une partie égale de moi. Il n'y a que du Christ et cela doit être symétrique. C'est-à-dire que je n'apporte pas un peu de moi parce que ça rendrait le tout asymétrique. Il faut que ça soit la symétrie qui a été tissée sur les métiers du ciel. Sa symétrie. Si c'est asymétrique, si mon caractère n'est pas égal, s'il n'est pas symétrique, c'est qu'il n'y a pas que la robe de Jésus là-dedans. Il y a un peu de moi et ça rend le tout asymétrique et ça rend le tout pourri. C'est une robe de rapiessage et ça n'est pas acceptable. Nous voulons la robe qui a été tissée sur les métiers du ciel et cette robe n'a pas un seul fil de la sagesse humaine. C'est quelque chose qu'il faut que nous nous rappelions, pas pour nous condamner, mais pour que lorsque nous voyons notre sagesse nous faire errer, nous nous rappelions que notre sagesse humaine n'a aucune place dans la robe de justice de Christ. Et donc, quand notre sagesse est en train de prendre le dessus. Il faut que nous la rejetions, que nous nous dépouillons du vieil homme et de sa conduite précédente et que nous revêtions le nouvel homme, Jésus-Christ. Je continue, c'est maintenant le temps de se préparer. Jamais le sceau de Dieu ne sera placé sur le front d'un homme et d'une femme impurs. Jamais il ne sera placé sur le front de l'ambitieux, de celui qui aime le monde. Il ne sera jamais placé sur le front des hommes et des femmes dont les lèvres sont fausses et le cœur trompeur. Tous ceux qui recevront ce sceau devront être sans tache devant Dieu, des candidats pour le ciel. Donc voilà, frères et sœurs, c'est maintenant le temps de nous préparer à recevoir le sceau. Et comme c'est écrit dans Testimonies for the Church, volume 5 à la page 216, paragraphe 1, ceux qui s'unissent au monde sont façonnés par le monde et se préparent pour la marque de la bête. Voyez, la marque de la bête, cela se fait très subtilement, très lentement. C'est une progression vers un façonnement par le monde. Et c'est si nous nous unissons au monde, nous serons façonnés par le monde. Et nous nous préparerons ainsi pour la marque de la bête ultérieure. Ça se fait par échelon. Mais il y a l'autre partie de cette citation qui dit « Ceux qui ne placent pas leur confiance en eux-mêmes, mais qui s'humilient devant Dieu et purifient leurs âmes en obéissant à la vérité, ce sont ceux qui reçoivent l'empreinte céleste et qui se préparent à la réception du sceau de Dieu. » Comment est-ce que nous nous préparons à la réception du sceau de Dieu? Comment est-ce que nous recevons aujourd'hui l'empreinte céleste? C'est si nous ne plaçons pas notre confiance en nous-mêmes, si je m'humilie devant Dieu et que je purifie mon âme en obéissant à la vérité. Comment ça, obéir à la vérité? Si je sais ce qu'est la vérité, il faut que j'obéisse à la vérité. Pas que je sache ce qu'est la vérité, mais que je désobéisse. Vous vous rappellerez d'une petite parabole que Jésus il a donnée. C'est, il y a une personne, et dit à cette personne, va, et fais ceci. Et le jeune, il dit, non. Mais après, il le fait. Et ben ça, même si, après nous l'avons fait, même cela, ce n'est pas approuvé par Dieu. Dieu nous accepte si nous n'avons pas fait sa pure volonté dès le premier appel. Mais pour recevoir le sceau de Dieu, il faut qu'il y ait une parfaite symétrie, une parfaite égalité, une parfaite soumission, une parfaite confiance en Dieu, une parfaite humiliation devant Dieu en purifiant nos âmes, en obéissant à la vérité. En obéissant complètement à la vérité et en nous humiliant devant lui en faisant ce qu'il dit, sans murmure et sans plainte. Voilà, frères et sœurs, c'est une réalité que nous allons devoir, Dieu voulant, continuer à examiner. Parce que c'est un besoin profond que nous avons de nous préparer pour ce sceau de Dieu. Il ne reste que très peu de temps, frères et sœurs. Je sais que la chair déteste entendre cela. La chair dit, oh, j'ai du temps, j'ai envie de prendre des plaisirs sur la terre et tout. Non, il n'y a plus de temps, frères et sœurs. C'est presque fermé. Il faut que nous nous soumettions au Seigneur, que nous humilions nos cœurs devant le Seigneur Dieu. Et que nous purifions nos âmes en obéissant à la vérité. C'est cela, c'est comme cela que nous sommes, que nous nous revêtons de la justice de Christ, que nous lavons nos robes et que nous les blanchissons dans le sang de l'agneau. Puisse le Seigneur, veuille bien le Seigneur accorder à notre mémoire de la vigueur et de la ferveur pour obéir à la vérité qui est Jésus même et qui s'est donné pour nous en sacrifice pour que nous puissions nous donner à lui en sacrifice vivant, ce qui est un culte raisonnable. C'est ma prière. Amen.